En décembre prochain, aura lieu à Paris la conférence mondiale sur le climat, qu'on nous présente ici comme un événement d'importance. Évidemment, ce sera l'occasion pour Hollande de se donner un rôle de chef d'orchestre, de dirigeant planétaire influent. Surtout, et ce n'est pas négligeable, que cette conférence tombera en plein pendant la campagne des élections régionales. La machine climatique s'est peut-être emballée, mais ce à quoi on assiste, et on va assister encore bien plus à mesure que l'on se rapprochera de ce soi-disant événement, c'est un emballement de la machine médiatique. Pourtant, on peut d'ores et déjà prédire qu'il n'en sortira rien. Pas plus que lors des 20 précédentes grandes messes sur le climat qui ont lieu tous les ans. Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne du globe a augmenté de manière sensible et le phénomène s'est accéléré significativement ces 15 dernières années. C'est au point que si cette tendance se poursuivait, la température pourrait grimper de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Un réchauffement qui entraînerait d'importantes conséquences pour la planète. En fait, la plupart de ces bouleversements annoncés restent des hypothèses. Les modèles informatiques utilisés par les climatologues pour prévoir le futur sont imparfaits, ce qui n'empêche pas que ces hypothèses aient une certaine probabilité de se réaliser et qu'elles représentent un réel danger pour les populations. Et si les scientifiques prennent la précaution de donner des fourchettes, de nombreux commentateurs donnent avec délectation dans un catastrophisme sans nuance. Pour Hollande, son implication dans la conférence climatique lui donnera un rôle d'autant plus important que l'on nous aura expliqué que l'heure est grave. Mais les dirigeants de ce monde ne se préoccupent pas plus de la planète qu'ils ne se préoccupent des hommes. Et comment croire que ces gens-là seraient capables de maîtriser le climat alors qu'ils sont incapables d'organiser l'économie de manière rationnelle? Pendant que l'on va nous jouer en boucle ce spectacle de guignol, combien de migrants vont continuer à mourir en Méditerranée ? Repoussés par les barbelés des États riches et puissants. Combien de bombes vont continuer à être larguées au Moyen-Orient? Combien d'engins de mort ces mêmes puissances vont-elles continuer à vendre en rafale? La vague d'émotion suscitée par la photo du corps du petit Eylan sur la plage de Turquie a été vite oubliée et les larmes de crocodile des dirigeants européens ne peuvent masquer cette infamie qu'a été pendant tout l'été et aujourd'hui encore leur attitude vis-à-vis des migrants. La proposition de Hollande d'accueillir 24 000 d'entre eux sur 2 ans est ridicule, indécente et ne peut faire oublier les coups de menton répétés de Valls ou de Cazeneuve rivalisant pour montrer leur fermeté à Vintimille ou à Calais. Leur politique vis-à-vis de la question migratoire, ne changera pas. Elle est une marchandise électorale, comme l'est pour eux l'agitation autour de la conférence sur le climat. Et pour développer sur ce sujet, je passe la parole à Jean-Michel Fontan.
Alors disons pour commencer que les marxistes se sont toujours sentis concernés par les questions de l'homme et de la nature. Le fondement des idées marxistes, c'est de combattre le capitalisme, non seulement parce que c'est une société d'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi à cause de la manière irrationnelle dont elle est organisée. Nous ne raisonnons pas d'abord en syndicalistes, mais avec une vision globale de l'humanité et de son évolution. Marx et Engels ont su voir le formidable potentiel productif que recélait le capitalisme, mais en même temps, ils voyaient tous les aspects qui l'empêchaient d'être la forme sociale de l'avenir humain, car l'économie de marché, la concurrence, rendent impossible la maîtrise consciente de cet avenir. Même les formidables progrès techniques qui ont été réalisés sous le capitalisme ne permettent pas d'accroître significativement la maîtrise de l'homme sur la nature, car la société capitaliste ne maîtrise pas sa propre vie sociale. Dans « La dialectique de la nature », voici ce qu'écrivait Friedrich Engels en 1883. « La science sociale de la bourgeoisie, l'économie politique classique, ne s'occupe principalement que des effets sociaux immédiatement recherchés des actions humaines orientées vers la production et l'échange. Pourvu que, individuellement, le fabricant ou le négociant vende sa marchandise produite ou achetée avec le profit d'usage, il est satisfait et ne se préoccupe pas de ce qu'il advient ensuite de la marchandise et de son acheteur. Il en va de même des effets naturels de ses actions. Les planteurs espagnols à Cuba, qui incendièrent les forêts sur les pentes et trouvèrent dans la cendre assez d'engrais pour une génération d'arbres à café extrêmement rentable, que leur importait que par la suite les averses tropicales emportent la couche de terre superficielle, désormais sans protection, ne laissant derrière elle que des rochers nus. Je cite toujours Engels. Vis-à-vis de la nature comme de la société, on ne considère principalement dans le mode de production actuel que le résultat le plus proche, le plus tangible, et ensuite on s'étonne encore que les conséquences lointaines des actions visant à ce résultat immédiat soient tout autres, le plus souvent tout à fait opposées, que l'harmonie de l'offre et de la demande se convertisse en son opposé. Fin de citation. Le propre de l'espèce humaine, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de vivre en prédatrice sur la nature. L'homme a apprivoisé la nature par l'invention des outils, avant même d'apprivoiser des espèces animales pour en faire des animaux d'élevage ou de compagnie, ou encore de domestiquer des plantes et permettre le développement de l'agriculture. Avec l'outil d'abord, puis en mettant d'autres espèces animales à son service, et surtout avec l'agriculture, l'homme a commencé à dominer la nature et à modifier profondément son environnement, sans d'ailleurs être capable de maîtriser les conséquences de ses actions et de ses transformations. Mais un certain équilibre avec la nature s'établissait. Avec le capitalisme, deux aspects contradictoires des rapports de l'homme avec la nature ont été portés à un degré inconnu auparavant. L'aspect positif est l'extraordinaire développement des sciences et des technologies qui ont donné à l'humanité les moyens d'accroître son emprise sur la nature de manière incommensurable par rapport aux sociétés antérieures. Mais parallèlement, ces moyens sont restés pour l'essentiel aux mains d'intérêts privés, ceux des capitalistes, et ne sont pas mis au service de l'humanité. Les hommes restent incapables de maîtriser leur propre société. La critique marxiste de la société capitaliste consiste, d'une part, à dénoncer l'exploitation, mais aussi à souligner cette impossibilité de la société capitaliste à maîtriser de manière consciente son avenir. L'humanité a aujourd'hui bien des possibilités techniques pour assurer une meilleure maîtrise. Mais parallèlement, à cause de la fuite en avant, de l'aveuglement de l'économie de marché, les dégâts que l'homme peut causer à la nature sont eux aussi portés à un degré inconnu par les sociétés humaines jusqu'alors. Et le réchauffement climatique pourrait bien être un de ces dégâts. L'une des contradictions fondamentales du capitalisme consiste précisément en cette différence entre les moyens techniques disponibles et l'impossibilité toujours plus grande de maîtriser les conséquences de leur utilisation. Pour mieux apprécier les risques concernant le réchauffement climatique, il est utile de comprendre d'abord comment fonctionne la machine climatique. Le climat dépend en dernière analyse du soleil, qui chauffe l'air, les océans et les sols. La Terre tourne autour du soleil en un an, elle fait une rotation sur elle-même en un jour, et c'est le fait qu'elle soit légèrement inclinée sur son axe qui détermine les saisons. Quand le pôle nord est orienté vers le soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Mais les rayons du soleil parviennent verticalement à l'équateur, disons à midi, mais en se rapprochant des pôles, ces rayons sont de plus en plus rasants. C'est ainsi qu'au printemps, la même quantité d'énergie solaire se répartit sur une surface deux fois plus grande, en Norvège qu'à l'équateur. Autrement dit, les régions situées autour de l'équateur reçoivent plus de chaleur que les régions polaires. La chaleur est alors redistribuée à l'ensemble de la planète par l'atmosphère et les océans. À l'équateur, les mers plus chaudes s'évaporent davantage. L'air chaud plus léger s'y élève en altitude, puis s'écoule vers le nord et le sud. Mais la Terre tourne. Alors, les masses d'air sont déviées dans le sens de la rotation de la Terre avant de redescendre vers le sol et de revenir vers l'équateur. Au-delà des zones tropicales, le soleil chauffe moins. La rotation de la Terre entraîne les masses d'air qui forment les vents d'ouest qu'on voit sur nos cartes météo. En dérivant vers le nord, les nuages s'enroulent en spirale. Et c'est ainsi que les vents transportent la chaleur des zones tropicales vers les zones tempérées et répartissent l'énergie solaire sur toute la Terre. La chaleur accumulée par les océans à l'équateur est aussi transportée par les courants marins. Dans l'Atlantique Nord, le courant chaud, qu'est le Gulf Stream, remonte vers l'Arctique et le Groenland. La chaleur qu'il apporte provoque l'évaporation de l'eau océanique et l'air chaud qui en résulte, poussé par les vents, réchauffe l'Europe bien au-delà des côtes. Au nord de l'Atlantique, les eaux de surface sont plus froides et plus salées. Plus denses, elles s'enfoncent alors dans les profondeurs de l'océan et engendrent un courant froid au fond de l'océan qui, lui, repart vers le sud. Ce courant s'appelle le tapis roulant océanique et il va faire le tour de la Terre. Sa vitesse est très faible comparée aux courants de surface qui sont essentiellement liés au vent. Et il lui faut de l'ordre du millier d'années pour en faire un tour complet. Il joue un rôle essentiel dans les transports de chaleur de l'équateur vers les pôles, aussi important que l'atmosphère. Ainsi donc, la circulation des courants océaniques et les déplacements des masses d'air dans l'atmosphère redistribuent la chaleur reçue à l'équateur et aux tropiques et gouvernent en partie les climats, mais tout cela avec une certaine inertie. Le phénomène physique auquel on doit le réchauffement climatique actuel et l'effet de serre, ainsi nommé par analogie avec les serres des jardiniers à l'intérieur desquelles il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. L'atmosphère se comporte comme la vitre de la serre à l'égard de l'énergie solaire. Celle-ci arrive sous forme d'un rayonnement visible et aussi de rayons infrarouges et ultraviolets. 30% de toute cette énergie est directement réfléchie vers les hautes couches de l'atmosphère. Elle ne parvient donc pas sur la Terre, en particulier par la couche d'ozone. Et elle est renvoyée dans l'espace. Le reste, à part une petite partie qui est réfléchie par les surfaces glacées, chauffe la Terre, son atmosphère, ses océans, ses continents, la végétation. Mais la Terre ne stocke pas cette chaleur. À son tour, elle rayonne. La renvoie vers l'espace sous forme, cette fois-ci, d'un rayonnement infrarouge. Sauf que des gaz atmosphériques, les gaz qu'on appelle à effet de serre, absorbent en partie cette chaleur, au lieu de la laisser repartir. Comme la vitre de la serre, il l'empêche de s'échapper, il la renvoie vers la Terre et ainsi la réchauffe. Cet effet de serre est un phénomène normal, vital même, puisqu'il assure une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. Sans lui, sans l'effet de serre, la température serait de moins 18 degrés et la vie serait bien sûr bien plus difficile. En fait, les gaz à effet de serre sont très peu abondants dans l'atmosphère. Celle-ci est composée à 78% d'azote et presque 21% d'oxygène qui, eux, ne produisent pas d'effet de serre. C'est dans le 1% restant que se trouvent ces gaz. Alors, la vapeur d'eau, c'est de loin le gaz à effet de serre le plus abondant. Le dioxyde de carbone, on appelle aussi le gaz carbonique, ou CO2, puis le méthane et aussi l'ozone. Sur Vénus, la présence d'une atmosphère dense composée essentiellement de CO2 joue un rôle clé dans l'explication de la température d'environ 450 degrés qui y règne. En revanche, sa rareté dans l'atmosphère de Mars, a plongé la planète dans un froid glacial de moins 50 degrés. Alors, au cours de la longue histoire de la Terre, le Soleil l'atmosphère, les océans, les continents ont beaucoup changé. Ces changements ont parfois été brutaux, c'est-à-dire relativement rapides à l'échelle des temps géologiques, quelques millions d'années au maximum, ce qui est considéré comme bref, car la vie a environ 3,5 milliards d'années. Des variations climatiques importantes ont souvent accompagné ces changements sans en être nécessairement la cause première. Certains changements brutaux ont eu comme conséquence des extinctions massives d'espèces animales et végétales. La vie sur Terre a connu 5 de ces extinctions. La plus massive, l'extinction dite du Permien-Trias, s'est produite il y a environ 250 millions d'années. 95% de la vie marine et 70% des familles d'espèces terrestres ont alors disparu. Même si la chaîne des événements qui ont conduit à cette extinction n'est pas encore totalement comprise, entre autres facteurs, il semblerait qu'une chaleur intense ait régné sur Terre, empêchant la vie de s'épanouir, une chaleur de l'ordre de 50-60 degrés à l'équateur et 40 degrés à la surface des océans, qui aurait alors libéré de grandes quantités d'hydrates de méthane naturellement présents dans les fonds marins. Un peu plus tard, une autre extinction massive a eu lieu. Il y a 200 millions d'années, quand les continents, qui bougent, après s'être réunis en un seul, qu'on appelle la Pangée, ils se sont remorcelés et dérivés vers l'équateur. Le climat redevint chaud et humide. Près de 75% des espèces marines et 35% des familles d'animaux auraient alors disparu, dont la plupart des grands amphibiens. Sur les terres couvertes d'une végétation luxuriante, ce fut alors le début de la formidable prospérité des dinosaures, dans ce qu'on a appelé l'ère du Jurassique puis du Crétacé. La température était en moyenne de 3 à 4 degrés plus élevée qu'aujourd'hui. Cela nous paraît peu, car nous supportons des variations bien plus importantes, ne serait-ce qu'entre le jour et la nuit. Mais lorsqu'il s'agit d'une moyenne, cette différence a des conséquences très importantes sur les conditions de la vie. Ce règne des dinosaures dura environ 135 millions d'années, jusqu'à ce que, il y a 65 millions d'années, une activité volcanique intense rejette dans l'atmosphère pendant près d'un million d'années des quantités gigantesques de lave, de gaz et de poussière. Conjuguée très certainement à la collision d'une météorite avec la Terre, ces éruptions ont obscurci l'atmosphère et provoqué un refroidissement du climat fatal non seulement aux dinosaures, mais aussi à un grand nombre d'espèces vivantes, qu'on estime à environ 50% qui ont disparu. Une partie importante de l'abondante végétation a été enfouie dans les sols et a pu se transformer en pétrole. Plus tard, il y a 30 millions d'années, c'est après que l'Amérique du Sud et l'Australie se furent éloignés du continent antarctique, celui du pôle Sud, qu'un courant froid s'est installé et que la calotte glaciaire du pôle Sud s'est formée. C'est tout récent, 30 millions d'années. Les glaciers du pôle Nord, la banquise qui couvre l'océan Arctique, se sont, eux, formés il y a seulement 3 millions d'années. Et depuis, le climat est une succession assez régulière de périodes froides, dites glaciaires, qui durent en moyenne 100 000 ans, entrecoupées de périodes plus chaudes, relativement, qu'on appelle interglaciaires, de 10 à 20 000 ans. Cette alternance est fondamentalement liée à des phénomènes astronomiques. L'orbite de la Terre est cycliquement déformée par les grosses planètes comme Jupiter et Saturne, et l'axe de rotation de la Terre, lui, a une inclinaison qui varie également de manière périodique. Des forages de la couche de glace réalisée au Groenland et en Antarctique ont apporté des preuves et des précisions sur les variations des dernières périodes glaciaires. En effet, au fur et à mesure que la neige s'accumule, elle se tasse et se transforme en glace, piégeant des poussières, des pollens et des bulles d'air qui sont autant d'archives. En juin 2004, un forage a permis de remonter des carottes de glace sur près de 3000 mètres d'épaisseur. L'analyse de la composition de cette glace et des bulles d'air emprisonnées dans des milliers d'échantillons a permis de retracer l'histoire du climat sur 740 000 ans. Les climatologues ont pu tracer la courbe de l'évolution de la température au cours de ce temps. Ils ont aussi tracé la courbe de la concentration du CO2 et celle du méthane. Eh bien, la correspondance est frappante. Elle apporte la preuve que l'évolution de la température est étroitement liée à celle des gaz à effet de serre. Elle montre aussi que la température et les concentrations de gaz à effet de serre varient selon des cycles quasiment identiques, approximativement, comme je l'ai dit, tous les 100 000 ans, avec à chaque fois un pic de réchauffement qui dure de 10 à 20 000 ans, les périodes interglaciaires, avec des écarts de température moyenne de l'ordre de 7-8 degrés entre les deux. Et il en irait donc ainsi depuis 3 millions d'années. Au cours de ces 3 derniers millions d'années, les alternances des périodes donc glaciaires et interglaciaires ont accompagné l'évolution humaine. Elles l'ont même parfois façonnée, comme ce fut le cas pour les préhumains et plus récemment pour les hommes de Néandertal. Dans la partie la plus occidentale de l'Europe, à chaque période glaciaire, la calotte polaire descendait très bas, et à l'est, les glaciers alpins constituaient une barrière quasi infranchissable. Donc, lors de chaque période glaciaire, c'est-à-dire pendant près de 80 000 ans à chaque fois, les populations humaines qui vivaient à cette extrémité du continent se trouvaient isolées des autres populations du continent eurasiatique, coupées du brassage génétique. C'est ainsi qu'elles auraient évolué vers ce type morphologique caractéristique des hommes de Néandertal. À l'autre bout du continent eurasien, en Indonésie, c'est pendant les périodes interglaciaires, à cause de la montée des eaux, que les hommes étaient isolés des populations continentales. Elles ont aussi développé des caractéristiques spécifiques sur leurs îles. Il y a 35 000 ans, les Néandertaliens ont disparu, laissant la place aux Homo sapiens dont nous sommes. Le climat a guidé ces voyages. Il y a 20 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire, la calotte du pôle Nord descendait jusqu'à la hauteur de New York, Londres, Stockholm et Berlin. Le niveau des mers était 120 mètres en dessous du niveau actuel. Le détroit de Bering, le passage entre la Russie et l'Amérique, était franchissable à pied. Et c'est peut-être alors que commença le premier peuplement de l'Amérique. Il y a environ 18 000 ans, débutait lentement la période de réchauffement de climat dans laquelle nous sommes, et ce, pour quelques milliers d'années encore. C'est durant cette période que des transformations radicales sont apparues, modifiant toute notre histoire. Au Proche-Orient, il y a 12 000 ans, les pluies, la chaleur, les fleuves permirent l'apparition de l'agriculture et les premières civilisations. Il y a 7500 ans, avec le réchauffement, la remontée du niveau des mers fut telle que la Méditerranée se déversa littéralement dans la mer Noire, qui était jusqu'alors un lac d'eau douce. Son niveau serait monté de plus de 100 mètres. Si le climat était plus chaud, il n'était pas pour autant aride. Le Sahara était couvert de savanes herbeuses peuplées de girafes et de gazelles, comme en témoignent les peintures du Tassili au sud-est de l'Algérie. Plus tard, il y a 4 à 5 000 ans, les déserts se sont développés en Afrique. Les populations ont dû émigrer vers des contrées plus propices à l'agriculture, vers les rives du Nil. Elles furent à l'origine des grandes civilisations d'Égypte. Plus près de nous, aux alentours de l'an plus 1000, l'Europe occidentale connut une période plus chaude, qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. En 980, le viking Éric le Rouge débarquait sur les côtes de ce qu'il baptisa « pays vert », c'est-à-dire Groenland. Les glaces qui empêchaient jusqu'alors la navigation avaient alors fondu. La colonie viking, installée au Groenland, dura 4 siècles, puis disparut, quand le climat recommença à geler les côtes du Groenland au cours de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. En effet, entre 1450 et 1800, l'Europe a connu un refroidissement consécutif à une baisse de l'activité du soleil. C'est entre 1550 et 1700 qu'il a fait le plus froid, 2 à 3 degrés en moyenne de moins. Ces changements peuvent paraître faibles, mais ils se sont traduits par des hivers longs et rigoureux, et par exemple à Venise en patinait sur la lagune. Depuis 3 millions d'années, les cycles naturels du climat accompagnent l'histoire de l'homme. Mais tout le monde ou presque s'accorde à dire que depuis un siècle, l'activité des hommes est devenue le facteur déterminant du réchauffement climatique. Mais les activités humaines depuis un siècle se font dans le cadre d'un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production, les lois du profit, du marché et de la concurrence. Les activités humaines, c'est le terme politiquement neutre pour ne pas parler de la réalité et des dérèglements de l'économie capitaliste. Les carottes de glace polaire ont confirmé que les taux de gaz carbonique mesurés ces dernières années sont largement supérieurs aux maxima jamais enregistrés depuis 700 000 ans. La température moyenne du sol a déjà augmenté de 0,85 degrés depuis 1880, avec une accélération sensible ces 15 dernières années, et la concentration du CO2 et du méthane dans l'atmosphère a régulièrement augmenté depuis 1800, avec une accélération nette depuis 1950. C'est plus 40% pour le CO2 et plus 150% pour le méthane. Aujourd'hui, 80% de toute l'énergie utilisée dans le monde vient du charbon, du pétrole et du gaz, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Ils proviennent de la lente décomposition sous terre de plantes ou d'animaux morts il y a des centaines de millions d'années. Issus de la matière vivante, ces combustibles contiennent essentiellement du carbone et de l'hydrogène. En brûlant, ils rejettent du CO2 et de la vapeur d'eau, deux des principaux gaz à effet de serre. Mais l'atmosphère étant saturée en vapeur d'eau, celle-ci se condense rapidement en pluie ou en rosée. Il en va autrement du CO2, dont la durée de séjour atmosphérique est de l'ordre du siècle. Il finit par être absorbé par les plantes ou dissous dans les océans. Au niveau mondial, 50% des gaz à effet de serre produits par les activités humaines vient de la production industrielle et de la transformation de l'énergie. 25% provient de l'agriculture et de l'exploitation du bois. La déforestation contribue doublement à l'effet de serre, car les arbres abattus n'absorbent plus le CO2, et la combustion de ce qu'on brûle pour libérer des surfaces cultivables produit du CO2 et de la vapeur d'eau. Les transports, quant à eux, contribuent pour 15% aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Le reste est imputable à la construction, au chauffage ou à la climatisation des bâtiments. Les océans et la végétation absorbent rapidement la moitié de ces rejets, un quart pour les océans, un quart pour la végétation. Mais l'autre moitié s'accumule dans l'atmosphère. L'intensification de l'agriculture et de l'élevage a aussi augmenté les rejets de méthane. Ceux-ci proviennent des rizières, dont les surfaces ont été fortement développées dans la deuxième moitié du XXe siècle, et aussi des ruminants, dont l'élevage s'est intensifié, et chez qui la digestion des végétaux produit d'importantes émanations de méthane. Pour ce qui est de la France, le secteur d'activité le plus polluant pour les gaz à effet de serre est celui des transports, 26%, suivi de l'industrie, 22%, de l'agriculture, 19%, bâtiments et habitations comptant également pour 19%. Les centrales nucléaires produisent, elles, très peu d'effets de serre, ce qui explique que l'énergie n'est pas un secteur important de ce point de vue-là en France. La conséquence la plus visible du réchauffement climatique est le recul des glaces sur tous les continents. La couverture neigeuse de l'hémisphère nord a diminué d'environ 10% en 40 ans. Au pôle nord, la banquise qui recouvre l'océan Arctique a commencé à fondre. Depuis 15 ans, elle se serait réduite de 10 à 20%. Au pôle sud, de gigantesques icebergs, dont certains atteignent 150 km de long, se détachent de l'Antarctique et flottent vers l'Australie. Les glaciers de l'Antarctique occidental raccourcissent en moyenne de 50 mètres par décennie, avec une accélération de 30% des fontes depuis 1990. Par ailleurs, la réduction de la couverture neigeuse partout sur la Terre diminue le pouvoir réfléchissant de la surface terrestre vis-à-vis des rayons du soleil, ce qu'on appelle l'albédo. C'est des surfaces blanches qui diminuent, et amène ainsi un effet amplificateur du réchauffement. En outre, certains sols habituellement gelés en permanence, qu'on appelle le permafrost ou le pergélisol, se dégèlent et, en dégazant, ils augmentent encore l'effet de serre. Les sols gelés ont en effet piégé de très grandes quantités d'hydrates de méthane instables qui ne demandent qu'à s'échapper. Le pergélisol est ce qu'on appelle un puits de carbone qui menace de se vider dans l'atmosphère. On a pu mesurer une élévation du niveau moyen des mers de 17 cm au cours du XXe siècle, mais 8 cm depuis 1992. Plusieurs phénomènes contribuent à augmenter le niveau des mers. Il y a d'abord la dilatation des eaux. Une eau plus chaude occupe un volume plus grand. Cette dilatation contribue pour environ 30% à la montée des eaux. Il y a surtout la fonte des glaciers terrestres, dont le plus grand volume se trouve en Antarctique. Par contre, signalons que la fonte de la banquise ou des icebergs n'a pas d'effet sur le niveau de la mer. Ceci vient du principe d'Archimède qui explique qu'un glaçon flottant dans un verre d'eau ne modifie pas la hauteur d'eau quand il fond. Une autre conséquence du réchauffement climatique semble être l'accroissement des événements climatiques extrêmes. Épisodes caniculaires, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de jours et surtout de nuits pendant lesquels la température est anormalement élevée, fortes pluies ou tempêtes tropicales. Les plus violentes de ces tempêtes font l'objet d'un débat scientifique animé. Si leur nombre n'augmente pas vraiment au niveau de la planète, sauf pour le bassin de l'Atlantique Nord, la majorité des scientifiques considèrent que les cyclones, recensés à partir des observations satellites, deviennent plus intenses et plus durables. Mais les données antérieures à l'ère des satellites sont manquantes, et ce qui ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'une tendance de long terme. Le réchauffement du climat a aussi des conséquences visibles sur des espèces animales et végétales. En France, la date moyenne des vendanges est plus précoce d'une quinzaine de jours depuis le milieu du siècle dernier. Ce n'est pas forcément grave, ça. Au Canada, les écureuils, les porcs épics et les ratons laveurs ont progressivement migré vers le nord à raison de 6 km tous les 10 ans. En revanche, incapables de s'adapter à des variations climatiques trop rapides, nombre d'insectes et de grenouilles ont disparu. Mais il n'y a pas que certaines espèces animales qui sont menacées par le réchauffement climatique. Il y a surtout de nombreux êtres humains. L'Organisation internationale pour les migrations estime entre 200 millions et 1 milliard le nombre de personnes qui pourraient migrer d'ici à 2050 pour des raisons climatiques. Et quand on voit avec quelle violence les pays riches refoulent tous les migrants, bon, sauf les riches, on peut s'inquiéter pour les futurs réfugiés climatiques. Si cette société capitaliste n'est pas renversée, on peut malheureusement prévoir de futures catastrophes humanitaires. Les réfugiés climatiques seront des hordes de pauvres dont personne ne veut, traités comme des parias, voire comme des criminels. Ce qui est en cause, ce n'est pas seulement le climat, mais surtout l'incapacité de cette société à organiser la vie sociale de manière rationnelle, prévoyante et humaine. Les fortes chaleurs de l'été dernier, avec des températures frisons par endroits les 40 degrés, ont fait de l'été 2015 le second plus chaud de l'histoire de France, depuis le début des relevés en 1900, avec 1,7 degré en moyenne de plus que la normale. Mais le record a été battu en 2003, avec 3,2 degrés au-dessus de la normale. De nombreuses villes ont alors connu plusieurs jours consécutifs avec des températures supérieures à 40 degrés et qui restaient élevées même la nuit. Dans un pays pourtant industrialisé, cette canicule a engendré une surmortalité de presque 20 000 personnes, principalement chez les personnes âgées. Les chambres mortuaires avaient rapidement été saturées, si bien qu'il a fallu entreposer des cadavres dans un hangar réfrigéré du marché-gare de Rungis. Alors que les responsables des services d'urgence avaient tiré la sonnette d'alarme, les hôpitaux étaient saturés. Le gouvernement et les autorités sanitaires ont tout fait pour minimiser ou ignorer le problème. On pourrait dire enterrer le problème en faisant de l'humour noir. Jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible de masquer l'ampleur de la catastrophe, ce qui a coûté son poste au ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei. Signalons au passage que l'ensemble des salariés ont été punis d'une journée de travail non payée, la bien mal nommée journée de solidarité, pour soi-disant financer des actions en faveur des personnes âgées. Seuls les salariés ont été punis, car les professions libérales et les indépendants sont exemptés, et les employeurs doivent reverser une contribution qui est inférieure à ce qu'ils gagnent par la journée de travail gratuit de leurs salariés. Cette contribution ne représente que 0,53 jours par salarié. La différence, c'est donc un bénéfice pour les patrons. Non seulement ils ne sont pas punis, mais en plus l'État leur a fait un cadeau sur le dos des salariés. Autant que la canicule en 2003, ce qui a tué, c'est l'imprévoyance et l'absence de volonté de consacrer des moyens préventifs à une situation que les autorités jugeaient peu probable. De nombreux pays européens ont aussi été touchés à des degrés divers. L'Italie a également eu 20 000 morts liées à cette canicule de 2003, ce que le gouvernement a réussi à cacher jusqu'en 2005. Pour l'ensemble de l'Europe, le nombre de morts est de l'ordre de 70 000. Alors pour revenir à l'année en cours, fin mai, une vague de chaleur en Inde a tué plus de 2200 personnes. La température est montée jusqu'à 48 degrés, 5 degrés de plus que la normale saisonnière. Le journal Le Monde, dans un article du 29 mai 2015, écrit que c'est comme si ces morts n'existaient pas. Et je vais citer. Ni le Premier ministre Modi, ni la plupart des journaux du pays ne s'en sont émus. Les médias anglais passent sous silence ces morts, sans doute parce qu'ils sont lus ou regardés par une population qui vit avec l'air conditionné. Encore plus qu'ailleurs dans le monde, la canicule en Inde tue d'abord les pauvres parce qu'ils ne travaillent pas dans des bureaux climatisés ou ventilés et qu'ils ne peuvent se passer d'une journée de salaire. Sanjay est un chauffeur de rickshaw au visage émacié, maigre comme un clou, et qui doit appuyer de tout son corps sur les pédales de son tricycle pour transporter les passagers assis derrière lui. Si je m'arrête de travailler, je n'ai pas de quoi manger le soir. Alors je continue sous la canicule, sauf au milieu de la journée où la chaleur est insupportable. Je continue la citation du Monde. Son seul moyen de lutter contre la chaleur, une serviette posée sur la tête. La hausse des températures a transformé la rue en un calvaire pour ces millions de travailleurs. Les ramasseurs d'ordures doivent traîner dans leurs chariots des monticules de déchets ménagers dans une odeur pestilentielle. Les ouvriers des bâtiments doivent continuer à travailler pour que les appartements soient livrés à temps, faute de quoi les promoteurs immobiliers doivent payer des pénalités de retard. Fin de citation. Le bitume fondait sur les routes. Les pauvres ne pouvaient plus dormir dans leurs baraquements, en tôle, pour la plupart, où la chaleur était devenue infernale et s'installaient pour dormir à l'extérieur. Au mois de juin, c'est le Pakistan qui a connu de très fortes chaleurs, provoquant la mort d'au moins 1000 personnes. Dans la capitale Karachi, 20 millions de personnes ont suffoqué sous des chaleurs de 45 degrés. Il faut dire que l'interdiction de boire en cette période de Ramadan n'a pas arrangé les choses, au point que plusieurs dignitaires religieux ont tout de même autorisé les personnes fragiles à ne pas jeûner, notamment à Karachi. Dans l'Ouest américain, ce sont les sécheresses récurrentes qui posent de plus en plus de problèmes. La Californie connaît une sécheresse exceptionnelle depuis 4 ans et en conséquence un rationnement drastique de l'eau. Elle est régulièrement touchée par des incendies violents en été et en automne, mais leur précocité et leur intensité semblent révélateurs d'un dérèglement climatique. Dans le nord et l'ouest américain, des incendies géants ont détruit depuis le début de l'année une surface supérieure à celle de toute la région PACA. Alors, quel futur peut-on prévoir? Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est une organisation créée par l'ONU en 1988, non pour mener elle-même des recherches, mais pour expertiser l'immense somme des productions de climatologues du monde entier afin d'en dégager des conclusions qui se veulent objectives. Un lourd travail de compilation, d'évaluation et d'analyse des données fourni par plus de 2500 chercheurs employant une vingtaine de modèles climatiques différents. Il ne fournit de rapport que tous les 6 ou 7 ans. Les deux derniers l'ont été en 2007 et en 2014. Les experts du GIEC établissent des scénarios. Le futur des activités humaines y est imaginé en fonction d'hypothèses sur la croissance démographique, le développement socio-économique et les futurs choix technologiques. Car selon que les échanges entre pays continuent de s'intensifier, que les inégalités se réduisent ou se creusent, que la part des énergies renouvelables se développe ou se tasse, les émissions de gaz à effet de serre diffèrent. On peut bien sûr douter de la valeur de ces modèles. Quel serait l'impact sur les activités humaines d'une crise économique majeure comparable à celle de 1929 ? Les économistes n'avaient pas prévu celle de 2008, car ces gens-là raisonnent dans le cadre d'un système économique qu'ils croient immuable et n'imaginent pas son effondrement ou son renversement. De nombreuses incertitudes demeurent donc dans ces prédictions. Quoi qu'il en soit, tous les scénarios, des plus optimistes aux plus pessimistes, ont un point commun et prédisent une augmentation des températures comprise entre plus 0,3 degrés et plus 4,8 degrés en 2100, qui viennent s'ajouter à l'augmentation déjà de 0,85 degrés. Et plus les modèles se perfectionnent avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs et l'accumulation des connaissances, et plus ils prévoient un réchauffement important. Ainsi, on peut déjà constater que certains changements, comme la hausse du niveau des mers ou la fonte de la banquise arctique, ont été largement sous-estimés dans les prévisions du GIEC en 2007. Si l'on en croit certains scénarios, avec la montée des mers, des régions entières pourraient être submergées. Les Pays-Bas seraient envahis par les eaux. Des îles, en particulier les atolls du Pacifique, dans Vanuatu, pourraient être englouties. Il en serait de même de tous les deltas des grands fleuves, celui du Nil en Égypte, du Mississippi aux États-Unis, du Yangtze-Kiang en Chine, Alexandrie, la Nouvelle-Orléans, Shanghai seraient ravagés, mais aussi Bombay, Canton, Calcutta, New York ou Tokyo. Dans un pays comme le Bangladesh, qui n'est que l'immense delta de deux grands fleuves descendus des sommets de l'Himalaya, la fonte partielle des glaciers viendrait ajouter ses effets à la montée des eaux. Le niveau du delta pourrait monter de près d'un mètre et le pays être rayé de la carte. Le réchauffement climatique ne risque pas seulement de faire disparaître des territoires entiers, mais également de menacer l'approvisionnement en eau de très nombreux hommes. La moitié de l'humanité vit à moins de 60 km des côtes. 8 des 10 plus grandes villes de la planète ont été érigées près de la mer. Plusieurs d'entre elles s'alimentent en eau grâce à ce qu'on appelle des lentilles souterraines d'eau douce, qui flottent en fait à travers les parois rocheuses et poreuses sur de l'eau salée marine qui imbibe le sol. Au fur et à mesure de l'extraction de l'eau douce, l'eau salée monte et peut contaminer la nappe phréatique. Ce phénomène s'observe déjà en des centaines d'endroits. Le pire est le cas de la bande de Gaza, qui n'a aucune autre ressource que sa nappe phréatique et dont l'eau n'est plus potable actuellement du fait de l'intrusion de l'eau de la Méditerranée. Comme du fait du changement climatique, le niveau de la mer monte, la pollution par le sel marin des régions côtières va vraisemblablement augmenter. Cette situation naturelle déjà désavantageuse est considérablement aggravée par la politique de l'État israélien qui impose un blocus révoltant à ce pays, en plus de pomper l'eau des nappes phréatiques de Cisjordanie. La fonte progressive des glaciers de l'Himalaya ou des Andes, dont certains pourraient disparaître complètement d'ici 20 ou 30 ans, entraînerait à terme la disparition de ce qui constitue souvent la source exclusive d'eau douce pour certaines populations, au moins durant la saison sèche. En effet, lorsqu'il pleut, l'eau est stockée en altitude sous forme de glace, de neige, pour être restituée progressivement pendant la saison sèche. C'est un mécanisme de régulation très important pour l'approvisionnement en eau. Un sixième de la population mondiale dépend à l'heure actuelle de l'eau issue de la fonte de ces glaciers, notamment en Bolivie, en Équateur et au Pérou, en Asie centrale, en Chine, en Inde ou au Pakistan. De grandes agglomérations comme La Paz en Bolivie auraient de graves problèmes d'approvisionnement en eau avec la fonte de ces glaciers. L'élévation des températures aurait également des conséquences sur la qualité de l'eau disponible pour la consommation humaine. Ainsi, une augmentation de la température des lacs et des rivières entraînerait une dégradation de leur qualité biologique et chimique. En outre, de nombreux experts alertent sur l'effet de seuil de certaines dégradations. À partir d'un certain niveau de dégradation, il ne suffit plus de ralentir, voire même de stopper une pollution, il devient difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Sous les tropiques, une autre conséquence du réchauffement des océans serait une évaporation plus abondante et plus rapide qui entraînerait des cyclones plus fréquents, plus violents, aux trajectoires imprévisibles. Accompagnés de vents puissants, ils pourraient dévaster l'archipel indonésien ou les îles des Caraïbes. Des climatologues envisagent aussi que l'air rendu plus chaud dessèche encore plus certaines régions tropicales. La recrudescence des sécheresses ferait progresser encore plus vite les déserts. Le manque d'eau rendrait catastrophique la situation de ces populations qui comptent déjà parmi les plus pauvres. De nombreuses zones subtropicales et le bassin méditerranéen, à quoi il faut ajouter une grande partie de l'Australie et le sud-ouest des États-Unis, risquent ainsi de faire face à des sécheresses croissantes. On peut dire, pour reprendre l'expression d'un expert, que les impacts du réchauffement climatique se feront principalement sentir à travers l'eau. Sécheresse, inondation, fonte des glaces, élévation du niveau des mers. Pour l'Europe de l'Ouest, certains scientifiques envisagent un ralentissement, voire une disparition du tapis roulant océanique, qui pourrait entraîner un ralentissement du Gulf Stream, ce courant marin qui vient des tropiques et réchauffe nos contrées. Nous aurions alors à subir la rudesse des hivers canadiens. Mais à l'inverse, d'autres imaginent que l'Europe se réchauffera malgré le ralentissement du Gulf Stream. Alors les terres cultivables s'étendraient en Europe du Nord et en Russie, à condition toutefois que l'eau ne manque pas. Certaines maladies infectieuses pourraient toucher des populations jusqu'alors épargnées, en élargissant la répartition géographique des insectes qui les transmettent. L'épidémie de chikungunya à La Réunion a déjà montré que la répartition du moustique, responsable de la transmission du virus, autrefois présent uniquement en Asie du Sud et du Sud-Est, au Japon et dans l'océan Indien, s'est étendue à la Chine, à l'Océanie, au bassin méditerranéen, en Afrique et même aux États-Unis. Enfin, bien sûr, la faune et la flore seraient elles aussi affectées. On évoque ainsi la probable disparition d'ici 2050 des récifs coralliens et des mangroves sur les pourtours côtiers. Et déjà en Arctique, des ours polaires meurent épuisés faute d'avoir trouvé un radeau de banquise où se reposer. Il demeure cependant un grand nombre d'inconnus sur ce réchauffement. La modélisation des activités humaines du futur est d'autant plus difficile que le capitalisme est un système irrationnel, capable d'emballement et de crise, et irresponsable car son moteur est l'avidité des bourgeois à s'enrichir. Et les scientifiques ont d'autant plus de bonnes raisons de tirer la sonnette d'alarme. Alors il y a aujourd'hui une véritable campagne mondiale pour faire croire que certains hommes politiques se préoccupent réellement du réchauffement climatique. Mais si les dirigeants politiques des pays impérialistes et leurs divers experts s'agitent aujourd'hui autour de cette question, ce n'est pas par philanthropie, ni parce qu'ils sont brutalement devenus soucieux de l'avenir des pays pauvres ou de celui de l'humanité. Constatant déjà que, malgré leur discours alarmiste, les autorités politiques des grands pays industrialisés ne se sont pas pressées pour prendre des mesures sérieuses en vue d'enrayer l'émission des gaz à effet de serre. Il y a déjà 23 ans, depuis le sommet de la Terre de Rio, que la question de la pollution atmosphérique, du climat et de son réchauffement sert de prétexte à des grandes messes internationales. Pour quel résultat ? En 1997, les représentants de 38 pays se mirent enfin d'accord sur un chiffrage de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils prévoyaient une réduction de 5,2% en moyenne par rapport à leurs émissions de 1990. C'était le fameux protocole de Kyoto. Mais il a fallu attendre décembre 2004 et bien d'autres sommets pour qu'un texte juridique imposant cette diminution de 5,2% soit ratifié. Entre-temps, il y eut de longues batailles entre les différents États pour mettre au point les modalités et les mécanismes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Derrière ces tractations laborieuses, il y avait bien sûr les intérêts et les rapports de force entre les grandes firmes de chaque pays. En matière d'environnement comme en matière de commerce international, les grands messes sous l'égide de l'ONU ne sont que des arènes dans lesquelles s'affrontent les puissances impérialistes. Au bout du compte, ce protocole de Kyoto ne fut ratifié ni par les États-Unis ni par l'Australie, qui représentaient pourtant à eux deux le tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La Russie et le Canada se sont retirés du protocole et la Chine, à l'époque, n'était pas concernée. Très concrètement, le protocole de Kyoto ne prévoyait rien d'autre que la distribution par chaque État adhérent de quotas d'émissions de gaz carbonique à ces différents secteurs industriels. En Europe, ce sont des droits d'émettre 2,2 milliards de tonnes de gaz carbonique qui ont été répartis entre 11 400 sites industriels différents dans 25 pays. Un nombre réduit de grandes entreprises contrôlent ces sites. Les industriels ne prennent pas de gros risques puisque le montant de l'amende prévue en cas de dépassement a été fixé à 40 euros la tonne de CO2 jusqu'en 2007, puis 100 euros, attention, ils deviennent méchants, si même des pénalités ont été réellement appliquées. Aucun des mécanismes imaginés à Kyoto n'imposait la moindre contrainte aux grands trusts des secteurs énergétiques, ni à la grande industrie, la chimie lourde, la sidérurgie, les cimenteries, la production de papier, du verre, tous les secteurs qui, à eux tous, émettent quasiment la moitié des gaz à effet de serre mondiaux. Les plus grosses entreprises implantées partout sur la planète peuvent même transférer leurs droits d'émettre d'une usine d'un pays à l'autre. Et les industriels ont même la possibilité de se revendre entre eux ces quotas qui deviennent ainsi de véritables permis à polluer, s'échangeant sur un marché appelé la bourse du carbone, avec un prix variant en fonction de l'offre et de la demande. Ainsi, le prix du droit d'émettre une tonne de CO2 est passé de 30 euros en 2004 à 10 euros en avril 2006, après l'annonce d'un excédent de quotas, pour continuer à décroître jusqu'à pratiquement 0 euros en 2007. Début 2008 a démarré la phase 2 du protocole de Kyoto et en 2013 la phase 3 avec des règles qui se voulaient plus contraignantes. Qu'on en juge, la tonne de CO2 a commencé à être cotée à 20 euros pour baisser régulièrement jusqu'à 2,90 euros. Pour les industriels, acheter des droits d'émission est bien moins coûteux que de réduire ses émissions. Cette bourse du carbone permet toutes sortes de transactions purement spéculatives et même la constitution d'un marché dérivé. Sans compter quelques aigrefins qui, avec des sociétés fictives, ont réussi à monter une arnaque à la TVA sur le marché carbone et à voler le fisc français de 1,6 milliard d'euros selon la Cour des comptes et 5 milliards d'euros selon Europol. Le 24 février dernier, les députés de la Commission environnement du Parlement européen se sont prononcés en faveur d'un accord pour la création d'une réserve de stabilité de marché prévue pour fin 2018. L'objectif annoncé étant de réussir à réguler le marché en retirant des quotas d'émission de CO2 en période de récession et en redistribuer en période de croissance. C'est une blague. Déjà en janvier 2005, lors du Forum économique mondial, 23 multinationales ont formé un groupe commun lors de la réunion pour le changement du climat du G8. Alors, ces multinationales, c'est Ford, Toyota, British Airways, British Petroleum, qui en font partie. Le 9 juin 2005, ce groupe a publié une déclaration commune mentionnant le fait qu'il était nécessaire d'agir contre le changement climatique et qui insistait sur l'importance de trouver des solutions basées sur le marché. Eh bien non, le marché n'est pas capable de trouver des solutions au réchauffement climatique, pas plus qu'il n'est capable de résoudre la question du logement ou le problème de la faim dans le monde. Créé sous l'égide des grands pays industrialisés, le protocole de Kyoto avait également prévu un mécanisme pompeusement baptisé « mécanisme de développement propre » qui permet aux industriels occidentaux de récupérer des permis de polluer dans les pays sous-développés s'ils créent à bon compte des installations dites propres dans ces pays. Mais surtout, les quotas d'émissions distribués par chaque gouvernement sont très généreux. Et comme il n'y a aucun contrôle sérieux sur les quantités de CO2 réellement émises, rien n'oblige vraiment les industriels à réduire les rejets de leurs installations. Or, celles-ci sont vétustes. Les raffineries les plus récentes ont 30 ans et beaucoup dépassent la cinquantaine. Une installation industrielle neuve inclut des procédés plus récents, plus économes en énergie. Elle obéit à des normes environnementales plus sévères et rejette moins de gaz à effet de serre. Tant que les industriels ne transformeront pas massivement leurs installations, les émissions de CO2 ne diminueront pas sérieusement. Mais pourquoi y aurait-il plus de volonté de contrôle en matière de gaz carbonique qu'en matière de déchets toxiques? Pourquoi y aurait-il plus de transparence dans ce domaine qu'en matière de sécurité au travail ou de contrôle des comptes des entreprises ? Chaque gouvernement défend ses propres capitalistes, quitte à s'asseoir sur ses engagements. En 2009, la 15e conférence, qui se tenait à Copenhague, au Danemark, devait permettre de renégocier un accord international sur le climat censé prolonger le protocole de Kyoto. Mais après 2 ans de négociations, le sommet s'est soldé par un échec. S'il affirmait la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, le texte de l'accord ne comportait aucun engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre, se contentant de grandes phrases, de prôner la coopération pour atteindre un pic des émissions aussitôt que possible. En outre, des experts du GIEC ont mis en garde sur le fait que ce chiffre de 2 degrés est trop élevé et préconiserait plutôt 1,5 degré d'augmentation maximum. Alors aujourd'hui obsolète, car presque personne ne le respecte, le protocole de Kyoto doit expirer en 2020 et devrait être remplacé par un nouveau texte qui est l'objet de la conférence de Paris, la COP21, comme ils disent, parce que c'est la 21e conférence sur le climat, concernant cette fois 195 pays. Pour que la température n'augmente pas plus de 2 degrés à la fin du 21e siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, l'objectif préconisé par le GIEC est une réduction de 40% des gaz à effet de serre et une diminution de 30% de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030. Chaque État participant à la conférence est censé remettre sa contribution, c'est-à-dire un engagement libre et volontaire que prend l'État concernant les émissions sur son propre sol. Mais la mauvaise volonté de quelques poids lourds, comme le Canada, l'Australie, le Brésil ou l'Arabie Saoudite, est manifeste. Alors que son pays était jusque-là montré du doigt, le 2 août, Barack Obama a annoncé, pour les États-Unis, vouloir faire baisser la quantité de gaz à effet de serre émis par les centrales américaines de 32% d'ici 2030 et faire passer aux États-Unis la part des énergies renouvelables de 13 à 28% en 15 ans. Obama a en commun avec Hollande de choisir le terrain du changement climatique pour se donner le beau rôle de sauveur de l'humanité. Le plan d'Obama, s'il devient réalité, devrait contraindre bien des centrales à charbon à modifier de façon importante leurs procédés industriels ou à fermer. Or, les capitalistes qui ont investi dans le charbon ne l'entendent pas de cette oreille. Ils hurlent à la mort, à la faillite et à la destruction massive d'emplois si on les contraint à quoi que ce soit. Citons en particulier les frères milliardaires Koch, mania du charbon, 6e ex-aequo dans le classement Forbes des plus grandes fortunes américaines, qui pratiquent un lobbying intense et financent de multiples initiatives visant à nier le fait que le réchauffement climatique actuel soit le fait de l'homme, à minimiser ce réchauffement et à éviter toute mesure contraignante qu'ils qualifient de collectivisme. Mais avoir la passivité des autorités américaines devant la frénésie des propriétaires de mines à décapiter des montagnes entières dans le Kentucky et la Virginie occidentale pour accaparer le charbon, on se doute qu'ils ont le bras long. Parallèlement, la Chine, qui avec les États-Unis forme les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, s'est engagée à atteindre son pic d'émissions au plus tard en 2030, c'est-à-dire que ses émissions devraient baisser ensuite. Elle a même développé massivement l'usage des énergies renouvelables, le captage du CO2 dans les centrales électriques à charbon et les scooters électriques. Ainsi, il y a une certaine hypocrisie des pays développés à accuser certains pays du tiers-monde, en particulier la Chine, le Brésil ou l'Inde, de gâcher leurs efforts en matière de réduction de gaz à effet de serre. D'abord, l'essentiel de ce gaz qui se trouve actuellement dans l'atmosphère vient des grandes puissances qui ont commencé à le polluer depuis le début de l'ère industrielle. Et signalons que les comparaisons internationales sont souvent fallacieuses, car elles classent les pays en fonction du volume de leurs émissions de CO2 sans tenir compte du nombre d'habitants. Désigner la Chine comme le premier émetteur de gaz à effet de serre ne fait que souligner que ce pays est le plus peuplé du monde. Par contre, si l'on regarde les émissions de CO2 par habitant, elles étaient en 2010 de 17,6 tonnes aux États-Unis, 16,9 tonnes en Australie, 9,1 en Allemagne, mais seulement 6,2 en Chine, 2,2 au Brésil et 1,7 en Inde. Et là où l'hypocrisie atteint un comble, c'est que les pays développés ont obtenu du GIEC qu'il élimine, dans son dernier rapport de synthèse, un tableau intégrant pour chaque pays les émissions de CO2 relatives aux objets manufacturés, importés et consommés sur place. Comme une bonne partie de la production en Inde, au Chine ou au Brésil est destinée à l'exportation, cela aurait montré que certains pays comme la France sont beaucoup moins vertueux qu'ils ne le prétendent. La Chine est peut-être devenue l'atelier du monde, mais c'est un atelier de sous-traitance, et bien des donneurs d'ordre se trouvent dans les pays occidentaux. De toute manière, ce qui est en cause, ce n'est pas la bonne ou mauvaise volonté supposée des dirigeants. L'économie capitaliste est tellement anarchique, tellement fondée sur l'égoïsme individuel, que la mise en place de mécanismes de régulation par les États se heurte aux intérêts privés des bourgeois, le collectivisme, comme ils disent les frères Koch, à la loi du profit, à la concurrence entre capitalistes et entre les États eux-mêmes. Ainsi, il y a fort à parier que si nouveau protocole il y a, il sera toujours aussi bidon et aussi peu contraignant pour les industries polluantes. À la conférence de Paris, comme pour les conférences qui l'ont précédée, les négociations se feront en concertation avec le grand patronat. On peut d'ores et déjà parier que la recommandation d'abandonner le transport de marchandises par la route et de développer partout le transport ferroviaire ne sera pas faite, ou alors elle sera non contraignante. Les sponsors devraient prendre en charge 20% du budget de la conférence et, en tant que mécènes, pourront participer aux négociations. Comme l'ont dénoncé différentes associations, il y a une certaine ironie à laisser les négociations dans les mains d'industriels qui ont de gros intérêts dans les énergies fossiles au niveau mondial, parmi lesquels GDF Suez, Michelin, Renault, EDF. Les sponsors pourront afficher le logo « Partenaire officiel Paris 2015 » pendant un an. Tous ont pavoisé autour du ministre Fabius, vantant qui ses véhicules électriques, qui ses solutions pour réussir la transition énergétique, qui son engagement pour préserver le monde de demain. Bref, des négociations aux mains des pollueurs. En effet, il vaut mieux être dans la place pour pouvoir torpiller les mesures trop contraignantes et orienter les mécanismes de subvention. Et une belle vitrine publicitaire pour eux, sans parler des nouveaux marchés en perspective. On va peut-être faire une petite pause et on se retrouve dans un dernier.